RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce sixième numéro de la septième saison de Côté Ouvert, votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et bien sûr diffusé sur RCF Occitanie en DAB+, rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec le site Vibré Rugby. Aujourd'hui, quelque peu enroué, je l'avoue, je l'assume, dans notre multiplex entre l'Aude, le Tarn et le Piémont des Alpes, c'est avec d'abord un immense plaisir que nous saluons un retour, celui de notre vénérable préféré, monsieur Christian Mosna. Salut Christian.
Bonjour à tout le monde et à tous les auditeurs.
L'indispensable Renaud Sorel du côté d'Albi a bien sûr répondu présent à l'appel et on en est ravi. Salut Renaud.
Ouais, ravi. Bonjour à toutes et à tous.
Et puis, on pensait avoir notre ami Florian Larios et puis un problème de pare-brise, le maintien bloqué sous-préfecture tarnaise. Donc, on se contentera d'avoir, mais on en est aussi très très content, au pied des Alpes, notre copain Frédéric Protin. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Et puis, les auditeurs fidèles le savent, aux manettes, bien sûr, GG, au doigt de fée, Jérôme Bozon, mettra en onde cette magnifique émission.
Bonjour Patrick et bonjour à tout le monde.
Au menu de Côté Ouvert aujourd'hui, nous dédions la totalité d'émissions aux équipes de France. Pour commencer, nous ferons un petit détour par la Nouvelle-Zélande où s'est achevée le week-end passé la Coupe du Monde de rugby féminin. Et puis aussi, nous ferons le point sur la fameuse tournée d'automne de l'équipe de France qui vient coup sur coup d'affronter deux gros morceaux du rugby international, à savoir l'Australie et l'Afrique du Sud. À équipe de France égale Marseillais, c'est un classique dans Côté Ouvert. Et sans plus tarder, on va faire un petit retour sur la Coupe de rugby féminin, Coupe du monde de rugby féminin, et surtout sur le parcours des Bleus. On jouait ce week-end les deux derniers matchs, à savoir la finale et la grande et la petite finale. On rappelle que donc il y avait dans ce carré final quatre équipes, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Canada et la France. La Nouvelle-Zélande avait sorti la France en demi-finale et l'Angleterre avait sorti le Canada. Et donc, Nouvelle-Zélande et Angleterre s'affrontaient pour, on va le dire en quelques mots, ce titre de champion du monde, avec au bout aussi un record pour les Anglaises, 30 matchs sans défaite, et à ce qu'elles allaient sortir invaincues de cette Coupe du Monde. Et puis, les Françaises très, très, très déçues d'être passées à la trapounette avec un petit point de retard sur les Blacks, battues 25-24 en demi-finale. Elles avaient la possibilité d'accrocher la troisième marche du podium face au Canada, et elles l'ont fait sans coup férir, 36-0. Quand même, messieurs, avant de parler de nos Françaises et de nos Bleus, peut-être un mot sur la finale. Les Black Ferns, Christian, ont mis un terme à la quasi-invincibilité des Anglaises. Elles se sont imposées 34-31.
Oui, alors c'est vrai que ça a été un match au couteau entre les deux formations favorites avec l'équipe de France, parce qu'on était quand même susceptibles d'aller en finale, nous aussi. Et on a vu les Anglaises prendre vite l'avantage. Malheureusement, le carton rouge, je pense, les a quand même plombés pendant le deuxième acte. Enfin, c'était un petit peu plus tôt, mais sur la fin, les Black Ferns ont renversé la vapeur poussée par tout le public d'Auckland. Voilà, c'est la victoire du courage contre, je pense, les Anglaises qui présentaient la meilleure équipe de ce tournoi.
Fred, un stade avec 40 000 personnes à Auckland, voire plus, c'est aussi le signe que ce rugby féminin, il est plaisant à voir, il est plus que plaisant, il est tactiquement et techniquement, même si Renaud n'est pas forcément d'accord, intéressant.
Ah, si. Ah ben moi, j'ai apprécié cette finale. 11 essais, mais c'est bon. Alors, ils sont pas tous, c'est pas tous des essais avec des grandes envolées. C'est surtout les Black Ferns qui ont produit, à mon avis, un des plus beaux rugby que j'ai vu, parce que mettre des essais, et notamment le dernier, qui est le symbole même du rugby néo-zélandais, avec une, un franchissement, une attaque lancée, franchissement, passage de bras, plaquage, je me retourne, je donne le ballon à une personne, peu importe qui, mais en tout cas, il y a du soutien, et ça va à dame derrière. Donc, ce rugby-là, qui est joué à 100 à l'heure, on ne peut que l'aimer. En tout cas, moi, personnellement, je l'adore.
Et oh donc, non, allez,
victoire des Black Ferns, pour moi, bah, c'est la victoire du rugby comme on aime, en tout cas comme je l'aime.
Ouais,
Renaud, les essais, et pas un rugby pragmatique avec que des mauls, puisque les Anglaises, finalement, ont marqué quand même 3 essais sur maul. Bon, le premier, ça va, mais la suite, on connaît. Quoi.
Ouais, Renaud, donc je taquinais tout à l'heure un petit peu sur, sur ce rugby féminin. Sincèrement, les Black Ferns, comme le dit Fred, c'est un rugby qui est vivant, c'est un rugby qui propose de l'inventivité. Et puis surtout, ça c'est pas pour te déplaire, elles ont mis un terme à la série d'invisibilité de nos meilleurs ennemis.
Oui, meilleurs ennemis. Moi, même si je suis très admiratif, ça va peut-être vous surprendre, du rugby anglais qui a féminin. Qui à un moment a pris les choses en main en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour et ça sera peut-être une des clés pour l'avenir du rugby français. Donc il y a un championnat professionnel, elles sont bien payées, elles ont des matchs de haute intensité tout le week-end, elles ont eu 30 victoires consécutives. Alors après, elles ont un jeu très pragmatique avec une énorme force devant, comme le disait Fred, des mots le porter. Après, elles sont super bonnes là-dedans, elles vont pas changer. Et bravo aux Blacks qui, quand on lit la presse, on dit on savait comment il fallait, ce qu'il fallait faire pour battre cette équipe. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un jeu risqué, un jeu osé, fait de franchissement, de passes derrière la défense. Alors ça peut passer, et c'est passé, même si elles ont mis le temps. Et je pense que même s'il n'y avait pas eu le rouge, enfin, on ne peut pas imputer la défaite des Anglaises uniquement au carton rouge, même s'il a joué, n'en doutons pas. Mais voilà, elles ont su arrêter cette armada anglaise. Et c'est un match qui, vraiment, est la meilleure des promotions pour le rugby féminin, parce que c'est un des plus beaux matchs de rugby féminin qu'on ait vu, je pense, depuis la création de ce sport pour les femmes.
Ouais, je vois que tout le monde opine du chef. Christian, côté bleu, l'objectif c'était d'accrocher au moins les quarts de finale. Donc on peut dire que ça, l'arrivée troisième, le contrat est rempli.
Ah oui, largement, parce que il faut pas oublier qu'on échoue d'un seul point, nos filles échouent d'un point contre les Néo-Zélandaises chez elles. Et pour moi, c'était déjà une petite victoire. Malheureusement, la dernière pénalité, elle la remporte pas. Mais bon, ça a tenu à un fil. Donc, elles ont prouvé ensuite sur le match contre les Canadiennes qu'elles faisaient la maille.
Ouais, elles ont du mental, ou moins.
Voilà, elles ont du mental. Malgré l'énorme déception de cette demi-finale, elles se sont retrouvées pour corriger les Canadiennes et finir en beauté. Non, c'est un magnifique tournoi pour nos filles, hein, y a rien à dire.
Fred, quelle certitude pour toi le rugby tricolore féminin peut avoir au sortir cette Coupe du Monde? Sur quelle certitude, sur quel point fort elle peut s'appuyer?
Moi, je pense que la certitude, c'est de poursuivre leur état d'esprit, de vouloir jouer les ballons comme elles ont toujours voulu le faire. Elles sont passées très proches de cette finale. Ça s'est joué à rien, mais la victoire était quasiment au bout de cette pénalité. Mais bon, en fait, ce n'est pas la pénalité à la dernière minute qui entraîne la défaite. C'est bien plutôt le renvoi dans le but où on redonne le ballon au Black. Et puis, il y a une mêlée à 5 mètres. On perd la mêlée, on prend un essai derrière. C'est là qu'on a perdu le match. Donc, il faut arrêter les déchets. Le jour où les Françaises ne feront plus ce type de faute, elles vont gagner.
Voilà. Renaud, pour la minute qui nous reste à parler des Bleus ES.
Tu m'as coupé,
qu'est-ce qui manque à ces Bleus, justement, pour briser ce plafond de verre? On le voit clairement, le fossé, il est important entre les Bleus et puis les équipes en dessous, type Canada, Australie, etc. etc. Mais on n'arrive pas à accrocher le wagon supérieur, c'est-à-dire cet espace qui est trusté pour l'instant par les Anglaises et les Néo-Zélandaises. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, à l'état actuel des choses, pas grand-chose, parce qu'elles n'ont pas Alors, on dit les hommes, les femmes pour être au-dessus, tout simplement. Voilà, elles ont une charnière moyen âge, elles n'ont pas de jeu au pied, on va pas y revenir. Mais ce que dit Fred sur le jeu au pied d'occupation est catastrophique au niveau international. Voilà, on s'extasie de la fessée qu'elles ont mise aux Canadiennes. N'oublions pas que les Canadiennes sont des joueurs amatrices, les gars. Donc, elles ont battu des étudiantes et des nanas qui bossent la journée, qui s'entraînent le soir. Juste pour remettre, elles sont à leur place, les Françaises. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, il faudrait tout simplement augmenter le niveau du championnat et avoir un véritable championnat. Alors, elles ont des filles sous contrat, enfin, les filles sont sous contrat avec la Fédé, mais tu es professionnel, mais si tu as un championnat en mois, citez-moi des équipes du championnat féminin. Vous savez comment il fonctionne, le championnat féminin?
Blagnac.
Combien il y a de poules, combien il y a d'équipes? Personne ne le sait. Alors, je fais le malin. Oui, il y a 12 équipes, il y a deux poules de 6. Vous savez qu'il y a Chili Mazarin qui est en élite. J'ai rien contre Chili Mazarin. Mais voilà, il faut faire comme on fait les Anglaises si on veut un jour espérer décrocher une étoile pour le rugby féminin. C'est-à-dire avoir un championnat de haut niveau, des matchs de haut niveau, des matchs au couteau qui permettront de plus avoir le pied tremblant au moment où il faudra pas l'avoir. Voilà.
Bien, écoute, Renaud, j'espère que la FFR est à l'écoute, puisque tu as des solutions toutes prêtes. En tout cas, il y en a qui aimeraient aussi accrocher une étoile à leur maillot. Ben, c'est le 15 de France masculin. Et oui, parce que pour les garçons, pendant que les filles étaient en hémisphère sud pour la Coupe du Monde, pour les garçons, c'est la tournée d'automne. Alors, on le vend en anglais un peu plus sexy, Autumn Series, je ne sais plus exactement quoi. Mais en tout cas, ça bat son plein. Deuxième semaine pour les Français ce week-end écoulé. Et on va faire un petit retour sur le parcours de bleu. Alors, on avait tous les résultats, mais ça va être un petit peu fastidieux. On va parler juste des résultats de l'équipe de France. Donc, le 5 novembre dernier, les Français, d'un petit point, avec un essai magique de certains, Damien Penaud, se sont imposés 30-29 face à l'Australie. Et samedi dernier, 12 novembre, après un match d'une intensité quand même assez remarquable, voire même impressionnante, les Français sont venus à bout des Sudaf, 30-26. J'en profite pour caser juste une petite parenthèse. Première dans cette série d'automne, première victoire de l'Italie sur l'Australie, 28-27. Fred, on te laisse juste une minute pour parler de quelqu'un qui t'est cher, parce que ton dernier livre, tu y consacres plusieurs parties, plusieurs chapitres dans ton livre sur le FCG. C'est Ange Capozzo qui a encore fait des miracles. Tu as une minute chrono même pour nous parler de Capozzo, puis après on reviendra à l'équipe de France.
Oui, ben merci Patrick de parler de ce joueur qui est extraordinaire, jeune joueur, hein, et c'est les années 99-2000. Donc c'est un prodige, comme je l'ai appelé dans mon dernier ouvrage. Et ce qu'il a fait contre l'Australie, eh bien il est tout à fait dans la lignée de ce qui est capable de produire, ce qu'il produisait déjà à Grenoble, mais ce qu'il produit également à Toulouse. C'est un joueur qui a énormément de vitesse. C'est sa qualité première. Et en plus, il a des appuis. Et en plus, il est intelligent. Il fait jouer. On joue avec lui, mais il a vraiment le... comme on dit, bon, vulgairement, il pue le rugby, quoi. Hein. C'est un peu sa qualité et ses qualités, je pourrais dire. Et l'Italie qui se redresse. Alors, ce n'est pas lié qu'à Ange. Hein. Bien sûr, c'est un ensemble, c'est un collectif, bien sûr. Hein. Mais je pense qu'il y contribue quand même pour pas mal. On a bien vu à Cardiff la victoire où il met l'essai
magnifique.
Dans les derniers instants. Ouais. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario. Bon, ben maintenant, il y a l'équipe d'Italie avec Ange Capozzo.
Ben écoute, grâce à toi, on prendra régulièrement des nouvelles de ce joueur qu'on voit aussi en top 14 au Stade Toulousain. Et je pense que ce changement d'échelon lui a fait le plus grand bien. Messieurs, s'il fallait se concentrer uniquement sur nos bleus, la série des victoires se poursuit. 12e match sans défaite pour l'équipe de France. On va dire que la méthode Galtier est en train de faire ses preuves, ou en tout cas de bâtir des fondations solides. Nous aussi, on va filer la métaphore de la construction, Renaud, ou de la reconstruction qu'on écoute tous les mardis soir en conférence de presse du côté de Dalby. Retour rapide quand même sur ces deux matchs. Est-ce que ces deux matchs ont permis une fois de plus de dégager quelques certitudes pour le staff de l'équipe de France? Christian, à ton avis, quelles sont les certitudes qui sont vraiment maintenant flagrantes pour l'équipe de France après ces deux matchs?
Pour moi, la grosse certitude de ce groupe, c'est que c'est un groupe qui refuse la défaite, qui a une résilience extraordinaire, parce que contre l'Australie, on était vraiment très mal embarqués. Et contre les box, ça tournait au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre aussi après le carton rouge de notre ami
Antoine Dupont.
Antoine Dupont. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette équipe ne baisse jamais la tête. Et ça, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on peut leur faire, hein, parce qu'on est tombé sur une armada sud-africaine survitaminée et féroce, et
Donc
plus que féroce.
sud-africaine, quoi, en fait.
Oui,
Sud-africaine, tout simplement.
sud-africaine,
Classique.
voilà,
Du
mais
classique, comme diront nous.
poussé à son paroxysme quand même. Il y a eu des séquences où on était à la limite de la limite. Mais nos bleus n'ont jamais cédé, et ça, pour moi, c'est le point fort par rapport au travail de Galtier et de tout son staff.
Renaud, au-delà de ce
Ouais.
gros mental, de cette âme, donc, hein, encore une petite référence, private joke entre nous, cette âme de l'équipe de France, est-ce que tu vois toi aussi d'autres certitudes, peut-être le pragmatisme, quand il faut marquer, on est capable de marquer?
Ouais, voilà. Alors après, il a une philosophie, Galtier, c'est la fameuse dépossession. Je rends le ballon, etc. On s'est aperçu que ben, ça passe pas loin contre l'Australie, ça passe pas loin contre l'Afrique du Sud. Bon, peut-être qu'un jour, trop de dépossession va tuer la possession, et là, on va tout remettre en cause, mais elle est fidèle à son schéma de jeu, à sa philosophie, elle s'y tient. Et voilà, puis c'est aussi, par rapport à tout ce que dit Christian, qui est très juste, c'est cette notion de groupe. Aujourd'hui, tu vois un Falatea que tu n'avais jamais vu, tu as l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue en équipe de France. Vardy, c'est pareil, il manquait quand même un équarisseur du côté français, c'était Willem C. Moi, j'avais de grosses craintes. Hein. L'absence, enfin, on l'a vu d'ailleurs, l'absence de Willem C et de Kroos à droite ont quand même, je pense, pesé contre les Sud-Africains. Mais voilà, je suis impressionné par et inquiet parce que je me dis, un jour, ils vont en perdre un. Comme on disait avant le début de l'émission, voilà, moi, il faut que la série, elle s'arrête au tournoi destination et pas quelques mois plus tard, parce qu'on sera les plus malheureux de la Terre. Mais c'est, voilà, on a l'impression que sur cette jeune génération-là, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de champions du monde des moins de 20, de doubles champions du monde, et ils ont
De l'expérience.
voilà, et ils ont été élevés dans la cu. Alors, on parle du Stade Toulousain. Ils sont double champions du monde, ils sont champions d'Europe, ils sont double champions de France. Ils sont élevés dans cette culture de la gagne. Et
Fred.
ils rentrent, pardon, voilà, ils rentrent et ils disent non, non, mais on va gagner. Ouais, c'est les Sudaf, c'est des bouchers, ils vont nous marcher sur la gueule. Ouais, mais on va gagner le match.
Fred,
Et voilà.
cette équipe de France, comme le dit Renaud, avec cette détermination, c'est aussi cette abnégation et ce sens du combat que tu retiendrais, toi, pour un peu les caractériser?
Oui, le combat. Et ils ont montré qu'ils avaient autant de force que les Sudaf, qui est l'équipe la plus violente. Moi, je pourrais parler de violence parce que le carton rouge reçu par le joueur, la troisième ligne Sudaf, Dutoit,
Du toit, ouais.
méritait un rouge. Bon, mais le geste est violent. Donc, c'est des joueurs féroces, à la limite de ce qu'on aime dans le rugby. On aime le combat, mais on n'aime pas la violence. Alors, les Français ont cette capacité aujourd'hui d'avoir cette âme de combattant qu'on ne voyait peut-être pas il y a quelques années, ou en tout cas, ils n'étaient pas capables de rivaliser. Maintenant, ils sont tout à fait capables de rivaliser contre ces équipes qui proposent un combat féroce. Donc ça, je pense que c'est une grande nouveauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
Et puis, il y
Des
a
matchs qu'on aurait
aussi...
perdus il y a quelques années de
Oui,
ça,
voilà.
clairement.
Et puis il y a aussi, moi, ce que j'ai adoré, c'est bon, c'est sur le deuxième essai des Français, où il y a une combinaison que personne n'avait imaginée. Moi, je ne sais pas ce que vous pensiez de ce que vous avez pensé de cette action, mais elle est venue d'une façon fortuite et ça a marché. Donc là, ça c'est un deuxième enseignement, c'est cette force, c'est cette capacité à produire un jeu hors du commun à un instant où on ne l'attend pas. Et ben, de faire la différence.
Christian, le rugby, on le sait tous, c'est un sport collectif. Cela dit, il y a toujours besoin parfois de déclencheurs, de facteurs X, d'hommes qui vont transcender le collectif. Est-ce que toi, tu as identifié sur cette équipe de France actuelle les principaux hommes clés? Alors, on pourrait sortir les traditionnels Antoine Dupont, par exemple, même si là, sur les deux derniers matchs, il n'a pas forcément été au mieux de sa forme. Mais est-ce que toi, au-delà du poncif et classique maintenant, Antoine Dupont, on dirait qu'il a 30 ans de jeu derrière lui tellement on en parle. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, hommes qui pourraient apparaître comme des hommes clés du dispositif Galtier?
J'en vois déjà au moins un. La rentrée de Makalou à l'aile a été un coup de poker extraordinaire.
Un coup de génie.
Un coup de génie même, un coup de génie. Mais au départ, c'est un coup de poker. Quand Danti s'est gravement blessé, le fait de le faire rentrer à l'aile, tout le monde a eu quand même un petit bon, c'est pas son poste, c'est un troisième ligne, etc. Et il a fait un match fantastique. Bon, il n'y a pas que lui, hein, mais ce joueur-là m'a vraiment impressionné sur les balles hautes, sur sa défense, balle en main presque inarrêtable, un phénomène. Après, on peut avoir aussi, je trouve, moi, la première ligne a été royale. Hein. Cyril Bay, c'est un roc en mêlée.
Un roc fatigué.
Un roc fatigué, c'est sûr.
Parce
c'est
que
sûr.
Là, on le perd pour un petit bout de temps quand même.
Malheureusement, oui, les adducteurs ont sifflé.
Ouais, même si c'est moins grave que prévu. Hein.
Toulousain. Pardon. Oui, apparemment. Oui.
Ouais, voilà, ce qu'on lisait lundi dans la presse, c'est que ça serait moins grave que prévu.
Renaud, tiens, je voudrais te brancher sur le cas Ramos. Monsieur Ramos, qu'on a eu longtemps un peu loin du groupe, en tout cas, il n'était pas très utilisé. Là, le garçon, il intègre le groupe. Pareil, on a l'impression qu'il joue avec l'équipe de France depuis X années. Enfin, il est presque indispensable ce jour.
Très sûr dans le jeu au pied. Alors, il n'a pas la longueur de Jaminet. Ouais. Donc ça va être le débat quand Jaminet va revenir. Très sûr dans les ballons hauts, joueur très intelligent, futé, qui a de la bouteille, de l'expérience, qui sait brancher quand il faut brancher, il sait calmer quand il faut calmer. Et puis, pour comparer avec l'équipe de France féminine, il y a l'essai qui donne l'avantage aux Français, il rate la transformation. À gauche, pas très en coin, hein, dans les standards du rugby du top 14. Hein. Il la rate, donc tu n'as qu'un point d'avance. Derrière, il a une pénalité.
Il ne tremble pas.
Pénalité, et celle-là, tu vois ce que je disais par rapport à la petite Drouin, et celle-là, il la met. C'est parce qu'il sait qu'il a raté la précédente. S'il rate la seconde, là, on va commencer à dire voilà, il a le pied qui tremble à l'instant T.
Fred, ça va être, après tous ces compliments, est-ce qu'il y a quand même des interrogations qui demeurent selon toi en termes d'équipe de France, au-delà des blessés, parce que le match a été vraiment d'une telle intensité qu'on a eu un paquet de gens qui ont été touchés sur ce match. Moi, ce qui m'a inquiété un peu, c'est quand même la fragilité sur les ballons portés. Alors, peut-être que toutes les autres équipes ne nous mettront pas les mêmes séquences sur les ballons portés, mais là, la vidéo tourne à fond et je nous ai trouvé un peu friable sur le secteur.
Oui, ben oui, tu as mis le doigt sur le point faible.
Alors, mais je ne me permettrai pas d'aller mettre un doigt dans un ballon porté. Ça,
non, faut éviter.
Je suis très d'accord.
N'importe quelle équipe, et encore plus contre les box. Oui, ben, tout le monde a relevé ce point faible. Hein, en défense, des maules portées, des ballons portés. Donc, l'équipe est friable, mais je pense que le staff va trouver des solutions. Ça, j'en doute pas un seul instant. Je pense aussi que c'est une des qualités parce qu'on a un staff quand même très, très élargi. Donc, il y a ce point faible. Toutes les équipes, de toute façon, à un moment ou à un autre, ont des points faibles. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on a repéré ce point faible-là contre les box. On verra contre d'autres équipes. C'est pas dit que ce point faible perdure, de toute façon.
Une prochaine équipe, d'ailleurs, c'est le Japon. Christian, quelle stratégie a adopté contre le Japon? On fait tourner parce qu'il faut reposer les corps après un match quand même qui a été dantesque. Fred parlait de violence tout à l'heure et ça, on n'était pas loin. Ou est-ce qu'on joue la continuité avec une ossature, il faut que j'articule, la plus proche possible de celle des deux premiers matchs? Que dirait coach Christian?
Alors, je vais faire une réponse de normal. Là, parce que,
Normand au doigt quand même. Hein.
En Normand au doigt, oui.
Et Gaillacoua.
Oui, et Gaillacoua. Mais il faut faire retourner, c'est nécessaire. Par contre, tout changer, je pense que ça serait une erreur. Il faut peut-être mettre un peu de sang neuf, notamment mettre Moi, je suis un peu déçu que, par exemple, Jalibert entre que 10 minutes à la fin de chaque match, alors que, franchement, il apporte beaucoup, contrairement aujourd'hui à Ntamack qui on sent qu'il n'a pas le niveau qu'il avait habituellement et qu'il manque de compétition. C'est un pari qui était osé de le faire jouer alors qu'au stade, il était blessé. Donc, moi je mettrais une équipe un peu remaniée, une charnière, on partirait avec Lucu et Jalibert. Après, bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais il faut un petit peu de sang neuf. Il faut donner sa chance à quelques joueurs qui sont tout près des titulaires. On le voit quand le banc rentre. Wardy, on dirait qu'il a toujours été là. Falatea, c'est pareil. Donc, peut-être démarrer justement avec la première ligne du banc et voir ce que ça donne.
30 secondes de Renaud. Ouais. Tu fais quoi, toi, coach Renault?
Tu vas être contraint de faire tourner eu égard aux blessés. Tire Bail, tu l'auras pas. Flamand, tu l'auras pas. Dupont, tu l'auras pas. Voilà, donc tu vas avoir tu vas changer en seconde ligne, tu vas changer à la charnière, tu vas avoir Maxime Lucu. Après, moi, je garderai Ntamack en 10. Il y a un choix qui est fait par l'entraîneur. Voilà, c'est Ntamack. Alors, est-ce qu'il va dire je mets la charnière bordelaise? N'oublions pas qu'on joue au stadium, hein, donc la réception du public par rapport à Jalibert. Non, mais ça, tu rigoles, Christian, mais ouais. Ça peut. Ouais, ça peut, parce que le public toulousain, quand même, faut se le fader, surtout pour ça. Donc, voilà, donc moi, je changerai contraint et forcé par les blessés, mais je garderai après. Les titus, ceux qui ont démarré les deux premiers matchs, je les reconduirai s'ils sont en plein état de leur pleine possession de leurs moyens, pardon.
Eh bien, on espère, Renaud, que Fabien Galthié est à l'écoute de l'émission et qu'il suivra tes bons conseils. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Les garçons, encore merci pour votre participation dans cette émission. On vous embrasse tous, on vous souhaite bon appétit et on vous dit à dans 15 jours pour d'autres aventures sur RCF. Salut à tous.